de raconter l'histoire d'une libération, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un bel esprit, une belle machine intellectuelle. Le genre de cerveau qui fait des plans en trois parties comme d'autres des mots croisés. Qui feuillette le proslogion de Saint-Anselme comme un hebdo de presse people. Sauf qu'aujourd'hui, la machine est enrayée. Aujourd'hui, il bloque, il bug. Il cherche une idée qui ne vient pas. Il la sent pas loin, mais elle lui résiste. Elle lui résiste tant qu'il souffre de tension dans les épaules, dans la nuque. Plus il veut la trouver, plus elle lui échappe. Et lui se crispe sur son clavier, le dos voûté, le ventre noué. Et le temps presse, et le temps l'oppresse, et son exaspération se change en angoisse. Son métier, c'est de trouver des idées. Mais qu'est-ce qu'il va devenir s'il n'en trouve plus? Et puis, un ange passe. Est-ce simplement qu'il a regardé par la fenêtre et a été surpris par la forme de ce nuage? Est-ce son corps qui lui a dit stop? Est-ce un coup de chance, une idée qui passe et aurait pu tout aussi bien ne jamais pointer le bout de son nez? Toujours est-il qu'il se lève de sa chaise, s'adresse aux autres habitants de son open space et leur dit très simplement « Je reviens, j'ai une petite course à faire et je reviens ». Mais il n'a pas de course à faire. Il se retrouve dehors, s'engage dans une rue puis une autre et commence à longer le bois. Il marche et peu à peu, les choses reprennent leur place. Il marche comme dans cette chanson de Ben Mazuet et il a cette impression de revivre en 10 minutes ce que son espèce a vécu en 10 milliers d'années. Il se redresse. Il déplie sa colonne vertébrale, lève son menton vers le ciel. Il respire et peu à peu règle sa respiration sur son pas. C'est comme la brasse coulée dans les premières secondes. Il faut un temps d'adaptation avant de trouver son rythme, son tempo, avant de ne plus penser à rien parce que ses jambes pensent pour lui, ses mollets pensent pour lui, son souffle pense pour lui. Il marche et peu à peu les choses reprennent leur place. Il a complètement oublié l'idée qu'il cherchait. Il a complètement oublié qu'il cherchait une idée. Et c'est alors qu'elle vient, comme une fleur éclose sur la présence retrouvée, comme un sourire ou une évidence, un printemps triomphant quand il efface l'hiver. Elle vient comme le désir revient quand on arrête de se forcer, quand on se met en état simplement d'accueillir ce qui est. Mais comment y arriver? Comment trouver cette sagesse au cœur même du tumulte? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir Philippe Nassif, philosophe et essayiste, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous aider à répondre à cette belle question : comment trouver la sagesse ou tout au moins l'équilibre au cœur d'un temps troublé ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Philippe Nassif.
Bonjour Charles Pépin.
Vous allez bien ?
Bien, très bien.
Merci beaucoup de nous avoir retrouvés ce matin. Alors, vous êtes là à différents titres, mais notamment parce que vous avez écrit un livre que j'avais adoré à l'époque, La lutte initiale, sorti il y a 10 ans, et dans lequel vous diagnostiquez notamment le mal de l'époque, on s'abîme dans l'ironie, le cynisme. Et il y avait dans ce livre une sorte de guide pour retrouver la présence. Alors, si je reprends mon édito, je commence par cette question. Comment ça se fait, si on prend cet homme, cet intellectuel, peut-être vous ressemble-t-il un peu d'ailleurs, comment ça se fait que parfois il lui suffit d'aller marcher, de se redresser pour mieux penser?
Parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent. J'aime beaucoup cette traduction que propose Jean-François Bilter du Tao. Oui. Il appelle ça le fonctionnement des choses. Et quand est-ce que les idées nous viennent? Quand est-ce que le sens nous revient? Quand est-ce que l'on voit la réalité telle qu'elle est, que l'on rassemble tous les éléments qu'on a en tête de façon à ce qu'ils forment une idée juste, en l'occurrence, c'est quand on cesse de vouloir. C'est quand on cesse de vouloir, c'est quand on cesse de, comme dirait René Char, s'attarder dans l'ornière du résultat.
Mmh. Et c'est joli ça.
Très, c'est René Char. et c'est au moment où on fait le vide de la volonté, nous dit donc le philosophe taoïste Chuang Tzu, que l'acte juste s'assemble. Donc c'est comme ça que les choses fonctionnent et nous l'avons oublié, nous, occidentaux. Nous ne savons plus interroger notre expérience commune, nous ne savons plus interroger ce qui se passe. Sans doute que votre intellectuel, quand il va revenir dans l'open space, il va dire « Ah, j'ai trouvé une idée, c'était bizarre, j'y pensais même plus, je marchais, et tout d'un coup, l'idée m'est venue. » C'est vraiment très exotique. Et c'est pas du tout exotique, c'est comme ça que ça marche, la vie, c'est comme ça que notre corps-esprit fonctionne. Simplement, on ne nous l'a pas appris, parce que nous sommes issus d'une civilisation qui a tout misé sur la volonté de l'ego, la volonté de l'intelligence.
Mais quand même, juste une remarque, une toute petite objection, c'est que cet homme, si ça se passe si bien au moment du relâchement de la volonté, quand il marche et qu'il respire, c'est quand même parce qu'il a voulu auparavant.
C'est ça. Il a voulu à bon escient. Il a voulu à bon escient, il n'a pas voulu le résultat, il n'a pas voulu l'idée, il a voulu la marche. Il s'est rendu disponible d'une certaine façon pour que les forces en lui, celles qu'il connaît, celles qu'il ne connaît pas, se rassemblent et répondent à son enjeu. Donc il n'était pas dans un rapport de causalité. Je dois trouver, je dois pondre cette idée, je dois accoucher de l'idée, sinon j'aurai pas mon salaire à la fin du mois, mes commanditaires me trouveront crétin, j'aurai l'air, enfin voilà, toutes sortes de catastrophes se passeront si je n'aboutis pas le résultat. Il s'est dit, eh bien, je vais marcher, je vais faire le vide, et en faisant le vide, je me rendrai disponible à ce que ce qui doit arriver arrive et à ce que l'idée juste se présente.
Alors ça fait plusieurs fois qu'apparaît dans votre propos, soit directement, soit indirectement, la notion de disponibilité. Mais il se trouve que le titre de notre émission, c'est « Comment trouver la sagesse dans un temps troublé ?» Et c'est vrai qu'on se dit, si on est disponible et qu'on vit dans un cosmos harmonieux, avec une belle nature et des gens équilibrés, on se dit « Ok, je vais être disponible à ça ». Mais si on vit dans le monde chaotique qui est le nôtre, un monde menacé par le péril écologique, un monde menacé par les djihadistes, un monde qui crame, qui brûle, qui déborde avec des inondations et des tsunamis partout, et qu'on se rend disponible à ça, est-ce que c'est pas très dangereux ?
Dangereux, non. Je vois... Enfin, comment dire ? Nous devons nous présenter, nous devons accueillir ce qui est là et ce qui vient. Se rendre disponible, c'est pas se laisser emporter par, c'est comprendre la réalité de la situation et ce qui est en train d'advenir, et c'est d'entendre ce que la situation requiert de nous. Nous, personnellement, singulièrement, avec nos propres forces, nos propres potentiels. Donc, c'est en aucun cas laisser faire, c'est en aucun cas se laisser emporter, c'est au contraire répondre avec justesse et tonicité à ce qui se présente à nous. Donc, il faudrait entendre, on va parler de sagesse, puisque c'est le titre que vous avez choisi pour cette émission, mais il me semble que ce qui m'importe, en tout cas, c'est la sagesse pratique. Oui. C'est la sagesse dans l'action. C'est pas la contemplation. C'est pas l'ermite en haut de sa montagne. C'est celui qui est capable d'agir avec justesse au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes.
Vous êtes plutôt du côté d'Aristote que de Platon, on voit.
On est plutôt du côté d'Aristote.
Vous voulez que je change le nom de l'émission? Expliquez-nous un peu. J'avais pas prévu de parler de ça, mais je trouve ça passionnant. Expliquez-nous un peu ce débat Platon-Aristote et pourquoi finalement c'est davantage Aristote le guide pour notre temps d'après vous.
En fait, c'est très simple. Platon a fondé notre tradition philosophique occidentale. Platon a brisé l'histoire en deux. Et Platon a brisé l'histoire en deux en disant il y a des idées parfaites, universelles, archétypales qui sont dans le ciel des idées et à partir duquel toute la réalité se décline. Tout ce qui nous apparaît, les phénomènes, tout ce qui nous apparaît à nos sens, ne sont que des versions dégradées de l'idée parfaite. Ce lit qu'a fait l'artisan, c'est une version dégradée de l'idée parfaite du lit. Et d'une certaine façon, Platon, en tout cas le platonisme, hein, parce que Platon était sans doute plus ambigu que cela, mais le platonisme tel qu'il s'est exprimé notamment dans la dans le christianisme et dans la révolution scientifique, c'est l'idée que le monde que l'on habite est trompeur et que pour pouvoir y naviguer, il faut qu'on le stabilise, qu'on le contrôle par des idées parfaites, universelles, parfaites et universelles. Voilà. Sans Platon, Galilée n'aurait jamais eu l'idée que la nature est mathématisable, par exemple.
Et pourtant, vous militez davantage pour la sagesse pratique d'Aristote.
Aristote, qui a été d'abord l'élève de Platon, après dit, ben finalement, moi j'aime beaucoup l'amitié, mais je préfère encore la vérité, et je dois reconnaître que mon maître a dit n'importe quoi. Ses idées universelle, parfaite, archétypale, elle n'existe pas. Platon a encombré le monde avec des objets qui n'existent pas, parce que, prenez l'exemple d'un médecin, nous dit Aristote, un médecin ne va pas soigner son patient selon une idée une et universelle et immuable du bien, il soigne ce patient-ci dans cette situation précise. Et donc, Aristote repart toujours, il essaye de sauver les phénomènes, il essaye de sauver les apparences, il repart toujours de la situation singulière telle qu'elle se présente à nous, et il ne va pas s'appuyer sur des grandes idées pour contrôler le
Je comprends mieux, puisque justement votre livre, La lutte initiale, présente différentes variations autour de cette sagesse pratique à travers trois figures, Philippe Petit, le funambule, Henri Beauchaud, le psychanalyste écrivain, et Albert Palma, le maître en Chine Taïdo, qui est aussi un plasticien, un peintre. Et justement, c'est ça qui est assez fort dans ce livre, c'est que vous partez de ces figures pour en faire des guides pour notre temps troublé et des maîtres en sagesse pratique. Alors justement, venons-en à Philippe Petit. Peut-être celui qui, moi, m'a le plus touché. Donc, on connaît Philippe Petit, c'est un funambule qui a notamment marché sur un fil, sur un câble entre les deux tours du World Trade Center, du temps où elles existaient. Et qu'est-ce que vous pensez que cette figure a à nous dire aujourd'hui et pourquoi elle vous a à ce point touché ?
Alors, Philippe Petit, comme beaucoup d'entre nous, je pense, je l'ai découvert à travers ce documentaire magnifique, Le Funambule, qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire en 2009, et qui raconte cette invraisemblable histoire où un jeune Français est parvenu, avec la complicité de certains amis, à tendre un câble entre les deux tours du World Trade Center, le 7 août 1974, et donc à 450 mètres du sol, le matin du 7 août 1974, il a marché, il a couru, il s'est allongé, il a dansé sur ce câble à 450 mètres du sol. Et notamment, si vous regardez ce documentaire, que vraiment, c'est l'un des plus beaux documentaires, c'est le genre de film qui vous arrache des larmes de joie, il y a ce policier qui monte pour l'interpeller, qui témoigne ensuite, qui dit, mais donc on l'a appelé, il s'est approché, il a éclaté de rire, il s'est retourné, il est parti en courant. Je savais que j'étais en train de voir quelque chose que le monde n'avait jamais vu et que le monde ne reverrait plus jamais. Et le policier en parlait comme s'il avait vu l'apparition d'un ange. Et il me semblait que Philippe Petit, dans cette atmosphère un peu nihiliste, dépressive, où on ne peut plus faire de grandes choses, où nous avons été abandonnés par les grands idéaux spirituels qui étaient portés notamment par les religions, Philippe Petit nous montrait que non, un miracle laïque est possible. On peut, par une activité tout à fait profane, qui est donc danser sur une corde, avoir le temps d'un instant un corps de gloire, un corps spiritualisé.
Et bien justement, écoutons un extrait de ce documentaire et précisément la voix de sa petite amie de l'époque, Annie Alix.
J'ai vu Philippe. J'ai vu Philippe là-haut et c'était extraordinaire. C'était tellement, tellement beau. C'était comme s'il marchait sur un nuage. Et il y a eu des moments extraordinaires. Il s'est couché. Et ça, c'était l'extase de voir cette image de Philippe couché là-haut. Et puis l'autre moment très très fort, c'est quand il vous souhaiterait. C'était tellement beau. Et quand il s'est agenouillé, il y a un moment où il s'est agenouillé et il a salué. Et donc je criais, regardez, et les gens ont commencé à se rassembler, mais personne ne voyait. Et ils me disaient, mais qu'est-ce que vous voyez ? Et je leur disais, mais un funambule, regardez, un funambule, il marche.
C'était un extrait justement de ce magnifique documentaire, Le Funambule, enfin Man on Wire, et dont vous parlez beaucoup dans votre livre La lutte initiale. Justement, je vais lire trois lignes de votre introduction pour qu'on comprenne de quoi Philippe Petit est le remède ou le contrepoison. Rien ne se passe, rien ou presque, rien n'advient sinon ce mélange d'hystérie, de mollesse et d'ironie qui, désormais devenu banal, nous tient lieu d'indignation. Alors Philippe Nassif, d'abord, est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui, 10 ans après ?
Disons que le temps est à l'inquiétude. On sait que des catastrophes se préparent et c'était sans doute moins prégnant il y a 10 ans, mais pour autant, pas grand-chose se passe, ou en tout cas, ça se passe sur le mode de l'hystérie, des certitudes, oui, toujours de l'ironie. Donc, on a ce sentiment d'être arrivé après l'histoire, après les grandes choses, et c'est pour ça que la figure de Philippe Petit, elle était importante. C'était qu'est-ce que c'est qu'une expérience d'élévation, dans tous les sens du terme, une expérience d'élévation. Les philosophes contemporains ont beaucoup insisté ces dernières décennies sur l'intensification de l'existence. Oui. Je crois que c'est un sujet qui vous est cher vous-même, Charles, l'intensification de l'existence. Et je pense qu'il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que d'élever son être, de simplifier son être, de rendre son être véritablement disponible à ce qui advient. Et Philippe Petit, sur le fil, il ne triche pas. Il joue littéralement sa vie, et il sait très bien que s'il n'est pas totalement, pleinement présent, s'il n'est pas à la fois bien campé dans son centre de gravité, mais d'une douceur extrême avec le fil, c'est la chute.
C'est ça. Là, c'est pas quand tu veux, tu peux. C'est pas si tu veux tenir sur le fil, tu peux.
Non, c'est ce qu'il dit quelque part. Il dit ne t'impose jamais sur le fil, il faut l'apprivoiser. Sinon, il te rejette. Donc là, le fil ne supporte pas le discours de la volonté. Ça se paie par l'échec, par la chute. Et là, dans le cas de Philippe Petit, par la mort. Donc, il n'y a pas de volonté qui tienne.
Mais vous en parlez très bien, et vous écrivez des très belles pages dans ce livre, La lutte initiale, chez De Noël. Vous parlez de justesse, d'une forme d'héroïsme, d'élévation. Vous voyez ce fil tendu entre deux tours comme une métaphore du désir, au fond, et non pas de la crispation volontaire. Très bien. Mais, et si on ne se sent pas capable de ça? Je veux dire, en quoi c'est un modèle pour nous tous qui n'avons pas cet héroïsme-là?
Nous avons besoin de modèles, je pense. Nous avons besoin de grandes femmes et de grands hommes pour nous inspirer. Et évidemment, Philippe Petit, il est rimbaldien. On ne sait pas par où il est passé.
C'est Rimbaud qui parle de la beauté par effraction.
Par effraction. Et puis, c'est un génie de la vie. Il découvre le fil. 3 mois plus tard, il marche dessus. À 16 ans, il se balade, je crois, à 16, 17 ans, il se balade entre les tours d'une cathédrale. On ne sait pas par où il est passé, mais ce qu'il nous montre, c'est que à force de répétition, à force de travail, à force de pacification avec soi-même et avec son instrument, nous pouvons réaliser de grandes choses. Si je l'avais rencontré, il m'avait dit marcher sur un fil, j'ai tendance à penser que c'est la chose la plus évidente du monde. Il suffit juste de poser un pied devant l'autre et de respirer. Et en même temps, c'est impossible. Donc il y a cette ambivalence, cette ambiguïté. Et il nous offre une métaphore pour la vie. C'est-à-dire que si nous voulons avancer dans la vie, si nous prenons ce fil comme la métaphore de notre désir, eh bien ce désir, nous devons cheminer vers lui, pas après pas, calmement, en respirant et en restant souple et droit. Et ça, je pense que ça peut nous inspirer dans toutes sortes de pratiques.
Eh bien, on va écouter les Stones pour méditer à ça.
Come back, I think you are still mad. You're out.
C'était évidemment les Stones, le sublime morceau Out of Time.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Philippe Nassif, l'auteur de La lutte initiale aux éditions de Noël. Philippe Nassif, essayiste, qui a écrit plusieurs livres, longtemps conseiller de la rédaction de Philosophie Magazine, et qui aujourd'hui nous aide à penser cette élévation possible dans un monde troublé. Une élévation en un sens post-religieux, dites-vous.
Oui, en fait, pour comprendre l'histoire dans laquelle nous sommes pris, ce qu'il faut saisir, en fait, et c'est pas évident, au moment où j'écrivais ce livre, en France, c'était quelque chose qui n'était pas évident à entendre, c'est que les romantiques, les romantiques, donc à partir de la fin du XVIIIe siècle, les romantiques allemands en particulier, ont véritablement fixé nos nouvelles coordonnées existentielles. On a en France l'idée, alors soit du romantique gazeux qui hurle sa colère du haut d'une montagne ou son hystérie, soit on associe le romantisme au fascisme. Donc on a une vision extrêmement superficielle et niaise du romantisme. Si l'on y regarde de plus près, on se rend compte que les romantiques allemands, donc dans les années 1790, ont été les premiers à comprendre que Dieu était mort, c'est-à-dire que ce n'était plus la religion qui désormais allait structurer l'existence des sociétés. Ils l'ont sans doute compris parce que ils assistent comme ça de l'autre côté de la frontière à la mise à mort du roi de France, du représentant de Dieu sur terre par la volonté populaire. Et ce sont les premiers. Ils comprennent énormément de choses. Ils comprennent qu'il faut relier le corps et l'esprit, qu'il faut relier l'homme à la nature, qu'il y a en Orient beaucoup de choses intéressantes à trouver, mais surtout la clé de tout, fondamentalement, c'est qu'ils comprennent que désormais les voies de l'élévation ne passeront plus par la religion, par la prière, par la dévotion religieuse, elles passeront par l'art et par la pratique de l'art. Et la pratique de l'art va devenir le médium principal, sinon le médium essentiel l'élévation de l'esprit. Et ça, c'est une histoire dans laquelle nous sommes toujours plongés et à laquelle il s'agit d'être fidèles. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que, alors évidemment, il y a eu les romantiques allemands, il y a eu en France Baudelaire, Rimbaud, il y a eu toutes sortes de romantiques, et c'est une histoire qui a continué avec les avant-gardes au début du XXe siècle, avec cette hypertrophie de l'art.
Et c'est aussi l'idée que c'est par la sensibilité qu'on s'ouvre à l'absolu, sans même avoir besoin de Dieu.
Voilà, c'est par la sensibilité, et la sensibilité, elle se cultive par la pratique artistique. Voilà. Et je pense que notre temps, aujourd'hui, ce qu'il requiert, ce n'est pas de rejeter le romantisme au nom de ses excès, c'est au contraire de rester fidèle à cet héritage romantique, mais en se dotant d'une méthode. Voilà. Et donc nous devons devenir des romantiques sobres, des romantiques en quête d'essentiel, en quête de vérité, en quête même en quête d'un absolu qui peut être un geste parfait, une parole juste, nous devons savoir que pour accomplir cela, nous avons besoin d'apprentissage, de répétition et de méthode, et c'est précisément ce que me semble-t-il les artistes de ces 30, enfin les artistes et pas seulement de ces 30-40 dernières années nous ont appris.
Et vous dites d'ailleurs dans votre livre que ce besoin de pratique, de travail artistique, de progressivité, de présence, c'est ce que l'Occident va chercher en Orient. Et vous montrez, et ça, c'est vrai que c'est un propos assez rare, on le lit rarement, que ces romantiques allemands qu'on voit comme très occidentaux, Hegel par exemple, en fait ont compris cette sagesse orientale.
On a eu l'intuition, oui. Disons que il y a la métaphysique de la volonté, hein, qui structure l'Occident de part en part. Et à un moment donné, cette métaphysique de la volonté, elle aboutit à des catastrophes, hein, à vouloir à tout craint, à tout vouloir contrôler, à vouloir fracturer le réel, hein. Et ça, c'était les grandes catastrophes du XXe siècle, notamment. Mais pas que. Et Et à un moment donné, on comprend que ce qui nous appartient véritablement, ce qui nous appelle, c'est d'apprendre à être présent. C'est une éthique, ce n'est plus une métaphysique de la volonté, mais c'est une éthique de la présence. Et là, il y a un rendez-vous avec l'Orient, il y a un rendez-vous avec les voies de salut développées en Chine, en Inde, au Japon, parce que précisément, ce qui a occupé ces traditions-là, c'est d'apprendre à être véritablement présent au monde, à soi et aux autres.
Imaginez la finale de l'épreuve de tir à l'arc aux Jeux Olympiques. Et vous demandez au premier, alors tu espères atteindre la cible. L'autre va vous dire, attendez, bien sûr, attends, c'est la finale des Jeux Olympiques, bien sûr que j'espère atteindre la cible. Et comme il n'y a pas d'espoir sans crainte, comme dit Spinoza, parce qu'il espère atteindre la cible, inévitablement, il a peur de la rater. C'est ce qu'on appelle exactement la pression. Il est pris entre l'espoir et la crainte, ou plutôt il a les deux inévitablement ensemble, et comme c'est un très grand champion, il atteint la cible quand même, mais la main a très légèrement tremblé à cause de la pression, il atteint la cible, mais pas en plein cœur, pas au plein centre. Et puis, vous interrogez le huitième et dernier finaliste, qui serait par exemple un petit sportif japonais qui ne paye pas de mine, un maître zen quelconque. Vous lui demandez, alors toi aussi, tu espères atteindre la cible. Il vous répond, mais non. Pourquoi ? Attends, c'est la finale, si tu la vises, c'est que tu espères l'atteindre. Ah non, non, pas du tout. Mais alors pourquoi tu la vises ? Parce que je veux la viser. Et sur les huit, il y en a tout d'un coup un et un seul dont vous comprenez que lui ne désire pas quelque chose qui est à venir, atteindre la cible. La flèche n'est pas encore partie, il désire, les sept autres désirent atteindre la cible. Ils désirent ce qu'ils n'ont pas, par définition. Ils sont donc en manque, hein, ils désirent quelque chose qu'ils n'ont pas. Le huitième ne désire que bien viser la cible. C'est ce qu'il fait, il désire ce qu'il fait, il fait ce qu'il désire, il est heureux. Il est à la fois concentré et en souplesse, comme dit Épictète, sans pression, comme diraient les sportifs aujourd'hui, et donc il atteint un pouls en plein cœur, disent les textes taoïstes.
Alors Philippe Tassif, je vous ai préparé ce petit son d'André Consonville que vous avez reconnu parce que il permet d'entendre très bien la figure d'Albert Palma, qui est une autre figure, donc il y a trois grandes figures dans ce livre, La lutte initiale, Philippe Petit, Henri Bochot et Albert Palma. Albert Palma qui est à la fois un maître en Shin Taido, dont vous avez été le disciple, je le précise, et qui est aussi un plasticien, notamment encensé par beaucoup de grands écrivains vivants. Pour n'en citer qu'un exemple, c'est Pascal Quignard qui a été le commissaire d'exposition de la première fois que Albert Palma, donc votre maître, a exposé ses tableaux, ses dessins. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette figure-là nous enseigne après celle de Philippe Petit?
Elle déplie la méthode par laquelle Philippe Petit est passé avec fulgurance et génie. Mais Albert Palma m'a beaucoup touché, m'a beaucoup ému parce que pour plein de raisons. Mais si on regarde son histoire, Albert Palma est un enfant de la Bohème dans les années 70. C'est un punk avant l'heure à Paris et il a un accident grave. Il se brûle les poumons en voulant cracher le feu. Il est donné pour mourant et il va trouver au Japon, à Tokyo, cette nouvelle art martial, le Shin Taido, inventé par des maîtres de karaté. Il va se régénérer. Et plus que ça, il va devenir lui-même à son tour un maître d'art martial. Et là, on voit bien ce que j'ai appelé dans le livre la figure du punk par le haut, c'est-à-dire que il ne s'agit plus seulement de libérer le corps. Hein, une fois qu'on a libéré les corps, eh bien on est comme des punks. On peut faire n'importe quoi. On peut être spontané, et naturel, mais on fait pas grand chose. On a un répertoire relativement limité. Et ce que nous montre le philosophe taoïste Chuang Tzu et ce que nous montre Albert Palma, c'est que précisément il est possible de retrouver. Alors voilà, ça, le punk, c'est celui qui va dire je veux pas apprendre parce que si j'apprends, ça va être des règles qui vont me limiter. Et ce que montre Albert Palma, c'est que à force d'apprentissage et de répétition, on peut retrouver une liberté, une spontanéité, un naturel, mais par le haut. Hein, c'est ce que font parviennent par exemple les grands jazzmen qui répètent et qui à un moment donné peuvent faire surgir d'eux-mêmes une musique improvisée sublime comme si c'était une seconde nature. Et donc cette figure du punk par le haut, de l'être qui serait véritablement naturel, spontané et libre, mais qui a beaucoup appris, que Albert Palma m'a montré. Il y a cette citation que j'aime beaucoup qui nous fera penser, je pense, au grand jazzman qui improvise, quand Chuang Tzu dit: ah, si seulement je pouvais rencontrer un homme qui a oublié le langage, quelqu'un à qui parler. Et c'est quand on a oublié nos apprentissages qu'on est véritablement libre. Je prends un exemple très bête, mais pensez à la manière dont vous avez appris à faire du vélo, par exemple. Il y avait plein de gestes très compliqués à coordonner au début, vous êtes tombé, vous y arrivez pas. Et puis à un moment donné, votre corps a métabolisé le bon geste. Et ce geste, il est venu s'installer d'une certaine façon dans votre inconscient. C'est un qui est le lieu du corps, hein, enfin c'est et c'est devenu une seconde nature, et vous avez pu faire du vélo en lâchant le guidon et en levant vos mains, par exemple. Donc cet exemple très stupide, de l'apprentissage du vélo, eh bien elle devrait nous guider pour tout le reste, c'est-à-dire que nous ne sommes pas réduit d'un côté à une spontanéité frustre et de l'autre à un académisme guindé. Il est possible, une spontanéité académique. Je ne sais pas
existe. En fait, tout ce vers quoi votre livre nous conduit, c'est l'idée d'une méthode de travail en fait sur soi pour retrouver une forme de naturel.
Pour retrouver une sorte de naturel, et c'est cette méthode-là qui passe d'une certaine façon par l'assomption de son centre de gravité, de son ancrage, d'un corps délié, d'un corps ouvert, d'un corps insufflé. Et c'est cet équilibre subtil entre le centre de gravité et l'ouverture au monde qui, à un moment donné, va vous permettre de répondre.
Et puis encore. De vous élever, parce que finalement, à chaque fois, il s'agit de réussir à s'élever, à progresser, à s'élever dans son rapport à soi et au monde.
Voilà, moi, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Donc, je suivais l'enseignement d'Albert Palma. Et la première chose qu'il m'a dit, l'une des premières choses qu'il m'a dites, c'était, j'avais dû partir comme ça dans une envolée métaphysique aussi imprécise que gazeuse, et il m'avait dit: écoute, Philippe, dans notre école, avant de poser les grandes questions métaphysiques, on commence par s'assouplir les genoux. Donc il m'a posé un koan, c'était une énigme. Je ne comprenais pas quel rapport il y avait entre la question métaphysique et la souplesse des genoux. Et voilà, et il me disait, finalement, si un jour tu conquiers une colonne vertébrale verticale et souple, alors tes pensées seront verticales et souples. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en effet, ce que j'écrivais était mieux ordonné et plus élancé. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pu comprendre qu'en effet, le corps est l'écrin de l'esprit, et que toute la conquête d'une pensée juste passe aussi par la conquête d'un geste juste.
Voilà qui donne envie. On va écouter Cassidy, Souterrain. C'était Cassidy, Souterrain.
France Inter.
Excuse-moi, Steph, mais j'appelle Maître Dong. Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres.
Qu'est-ce qu'elle a qui se referme?
C'est chakras. Les points d'entrée des énergies cosmiques.
Spécial, tes gonzesses. Hein. C'est toujours limite sortie d'asile.
Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Philippe Nassif, l'auteur de La Lutte Initiale. Philippe Nassif, mort de rire en écoutant ce petit son. Alors, Philippe, quand on vous écoute parler d'Albert Palma, se mettre en Shintaido, de cette pratique, retrouver son corps, redresser sa colonne vertébrale, retrouver son souffle pour mieux habiter le monde et habiter sa propre existence, quand on vous entend aussi parler de Philippe Petit, de cette espèce de sagesse comme ça, de l'équilibre, de la justesse, on entend votre prise de parti pour Aristote contre Platon, c'est-à-dire pour Aristote c'est l'ajustement, c'est la justesse, Platon c'est la quête d'une justice absolue, tout ça on comprend très bien, mais... Moi, je suis surpris parce que je pense à toutes... mon propos n'est pas misogyne, mais c'est vrai que c'est plus souvent des femmes, des instagrammeuses. Bon, il y a aussi des instagrammeurs hein, qui font du yoga et de la méditation toute la journée, mais on n'a pas tellement l'impression d'une ouverture au monde, plutôt d'un shoot narcissique, d'un ego complètement triomphant et d'une obsession de son cher petit moi, comme disait Pascal. Alors, comment on fait la part des choses quand vous évoquez comme ça ce besoin de l'Orient pour revivifier l'Occident et la manière dont l'Orient est instrumentalisé par l'Occident au service du pur narcissisme, en fait?
Je réponds que, en effet, l'esprit du capitalisme est très fort et il s'entend à récupérer toute chose au service de sa propre logique. Encore une fois, il y a une rencontre nécessaire entre l'Occident et l'Orient. Nous avons besoin de nous réinitier à une éthique de la présence. Et cette histoire de l'orientalisation de l'Occident, elle vient de loin. Elle a commencé avec les romantiques. Elle s'est prolongée avec Van Gogh réapprenant à peindre au contact des images de Kusai, de Debussy réinventant sa musique, découvrant la musique indonésienne, etc. Et il me semble que dans les années 1960-1970, énormément de gens ont pris le chemin de l'Asie pour s'initier justement à ces voies de salut qui étaient notamment le yoga, la méditation, le kung fu, etc. Et ça a donné en effet beaucoup de professeurs. Et on voit bien que ce désir continue à monter. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que, encore une fois, nous appartenons à une société où il s'agit de tout instrumentaliser à son propre profit. Il s'agit de tout instrumentaliser à son propre profit, et donc on va instrumentaliser le yoga pour avoir des fessiers toniques et pour avoir un maximum de vues sur son compte Instagram quand on met la tête en bas. On va instrumentaliser la méditation en espérant que on sera calme sous la pression pendant la journée. Et donc on va instrumentaliser toutes ces sociologies et on les dévoie, on les trahit. On les trahit et c'est vrai que moi je connais beaucoup d'excellents professeurs de yoga qui n'ont finalement pas beaucoup d'élèves parce que dans leurs cours on met pas souvent la tête en bas parce que oui. N'importe quel maître de yoga vous dira que vous êtes en train de bousiller votre colonne vertébrale personne ne se met la tête en bas.
Mais c'est marrant, quand je vous écoute parler,
c'est une école de patience et d'humilité. Là où aujourd'hui le yoga en effet est dévoyé.
Le problème que j'avais eu en lisant votre livre, c'est qu'on a l'impression pour vous, vous faites penser à tous ceux qui disent, voilà, par exemple, je sais pas, l'album du Velvet Underground, il y a eu que 200 personnes, mais ils ont annoncé le monde de demain. Et puis, il y a des choses en marge qui sont très signifiantes. Vous parlez dans votre livre des communautés offshore en disant que voilà, il y a parfois des choses qui sont pas majoritaires, qui sont pas mainstream, mais qui sont l'essentiel et qui dessinent l'avenir. Mais qu'est-ce qu'on en sait en fait? Et là, c'est un peu pareil. Vous dites, voilà, il faut regarder en périphérie de cette espèce de délire narcissique et de délire en fait où le yoga et la méditation deviennent une nouvelle musculation. On a l'impression de voir un coach américain obsédé par ses tablettes de chocolat, quoi. Et vous dites, mais il faut pas regarder ça. Il faut voir en lisière. Et vous êtes comme ça. Et votre livre, c'est un gros livre. Il y a 500 pages. C'est un très bon livre, La Lutte Initiale. Mais c'est partout présent dans votre livre. Et d'ailleurs, je précise que dans votre parcours, vous avez été passionné par la branchitude. Vous avez été un pilier important du journal Technica. Vous avez bossé à Canal+, avant de changer de vie et de devenir philosophe. Mais déjà, il y a une constante. C'est que ce qui vous intéressait, quand on s'intéresse aux branchés, on s'intéresse à des détails soi-disant éminemment signifiants. Mais qui nous dit que ces détails sont signifiants? Et qui nous dit qu'on n'est pas en train de se tromper, finalement? Et qu'on n'est pas en train de voir un truc énorme sous un détail qui, en fait, n'est qu'un détail?
Oui, ben c'est ça, c'est le fameux Zeitgeist, l'esprit du temps dont le philosophe, nous dit Hegel, serait le spécialiste.
Exactement.
Donc, je suis désolé, j'espère que personne ne sera froissé par cette remarque, mais il y a sans doute un lien entre mon activité de journaliste branché qui essayait de détecter la tendance en cours il y a 20 ans et aujourd'hui mon activité de philosophe qui essaye de décoder l'esprit du temps. Alors, il y a pas de réponse, vous savez, Aristote, donc la sagesse, ce qu'il appelle la sagesse pratique, ce qu'il appelle la phronesis, il dit ben c'est l'action guidée par la règle droite. Oui, mais quelle est la règle droite? Eh bien Aristote dit la règle droite, c'est celle que les gens sagaces, les gens qui ont une sagesse pratique appliquent. Donc il y a comme une espèce de cercle herméneutique, mais comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on sait? Eh bien, on active toutes ces portes de perception à la fois, ces sensations, ce qui nous excite, là où on sent qu'il y a un pôle d'énergie, on recoupe ça avec des informations. Encore une fois, l'Orient a été porté au nu par les romantiques et toutes les grandes révolutions esthétiques de ces deux derniers siècles, que ce soit en musique, en théâtre, picturalement, ont été inspirées à des artistes par l'Orient. Donc on a quand même déjà pas mal de repères là-dessus et après c'est mon expérience personnelle et l'expérience des gens qui me sont proches qui vont découvrir le yoga, qui vont découvrir la méditation et qui tout d'un coup voient leur journée transfigurée, accèdent à une sensation de paix et de justesse à laquelle ils ne pensaient pas pouvoir accéder. Et c'est passé en effet par certaines postures, par une respiration rythmée. Et donc là, il y a quelque chose qui se débloque. Et c'est à ça qu'il faut être attentif.
On entend bien ce que vous dites. Ça rappelle la phrase de Gandhi. Si tu veux changer le monde, sois d'abord en toi, dans ton corps, le changement que tu veux voir advenir dans le monde.
Oui. Alors, Gandhi dit ça, mais ça veut dire, voilà, oui, bien sûr. Si tu veux changer le monde, sois d'abord le changement que tu veux. Mais comment est-ce que tu fais? C'est ça, Gandhi ne nous dit pas.
Votre livre répond.
Gandhi ne dit pas comment faire.
Votre livre répond en proposant justement une méthode. Et je vais lire un extrait que j'ai trouvé très beau, qui est à la fin du livre. C'est aussi une manière de montrer votre méthode, puisque encore une fois, vous focalisez sur ce qui pourrait sembler un détail, en y voyant la promesse même d'une réconciliation politique nationale. Alors je lis Philippe Nassif. Alors, on dirait simplement une battle de hip-hop, et vous allez voir, c'est peut-être beaucoup plus que ça. C'est à la fin du livre, La lutte initiale. Cela se passe dans un centre commercial. Ce non-lieu édifié par notre basse modernité, où tout le monde passe mais où personne ne se salue. Dans un coin pourtant, des danseurs hip-hop venus des quartiers désœuvrés de la mégalopole s'installent afin de travailler leur art. Ils forment un cercle. Ils se donnent un rythme. Ils affrontent le vide en dansant chacun à leur tour au milieu de l'espace que leur assemblée dessine. Ils rebondissent, tournent et jaillissent à la conquête de figures gracieuses. Ce bel inutile par lequel ils accèdent à un corps de réjouissance, un corps de souffle, un corps en liberté. À la fois délié et comblé, exubérant et pourtant ajusté. Les plus anciens conseillent les plus jeunes, des trouvailles enthousiasmantes parfois surgissent, des instants d'harmonie s'esquissent. Auprès d'eux, les gens bientôt se rassemblent. Ils forment un cercle autour du cercle, une sphère attentive et enchantée par le spectacle répété d'un corps et d'un esprit unis en une attitude. Le centre commercial devient tout à coup un lieu, car une présence humaine le fonde. Il est habité. Le pôle d'attention s'est déplacé. Il n'est plus capté par les enseignes des boutiques et les logos des marchandises, mais il est aimanté par la communauté des danseurs. Et parmi les spectateurs, certains ressentent un frissonnement euphorique courir le long de leur corps. C'est la démangeaison du désir. C'est une image, bien sûr, mais qui, parmi tant d'autres, nous fait signe vers la plus belle des promesses, la promesse d'une ouverture initiale. où l'on entend Philippe Nassif raisonner le titre de votre livre, La lutte initiale.
Oui.
C'était le... Vous y croyez toujours à ces battles de hip-hop? Parce que c'était il y a 10 ans.
Disons que c'est, c'est par là que ce désir d'un corps pensant, d'un corps pensant, d'un esprit dansant, ce désir d'un cercle fraternel où l'on s'exerce, ce désir de réhabiter les non-lieux de notre modernité, voilà, ce désir tout simplement de se réjouir d'exister à travers là l'exemple de la danse, voilà, c'était une image qui m'avait frappé et qui j'aurais pu évidemment trouver mille et un autre exemple, et j'invite chacun.
Mais je suis pas sûr, moi je la trouve incroyablement efficace cette image.
Ouais, elle est efficace parce que.
Et puis il y a un brassage social aussi.
Il y a le brassage social. Il y a le. J'avais été extrêmement ému quand les fois où je m'étais rendu, notamment au Sénégal, de me rendre compte que la manière dont les Sénégalais dansaient ressemblait beaucoup finalement à la manière dont les danseurs de hip-hop le font, avec le cercle, avec les gens qui rentrent dans le cercle, qui en sortent, avec ouais. Voilà, certains gestes. Donc c'est passé d'une certaine manière. Le fil n'a pas été rompu et nous ne sommes pas repartis d'une table rase. Il y a quelque chose qui reste et il y a quelque chose qui s'exprime et je trouve important et ces danseurs là, j'avais précisé qu'ils étaient à l'écart. Ils sont comme l'archer d'André Comte-Sponville. Ils ne sont pas là pour être vus, ils ne sont pas là pour un résultat. Ils sont là parce que ils sont là juste pour le plaisir de
danser,
de répéter, de danser,
d'être ensemble
et d'être ensemble. Et j'aime beaucoup cette idée que voilà, la meilleure manière d'être ensemble, c'est de œuvrer ensemble.
Merci beaucoup Philippe Nassif, ce sera une belle conclusion où l'on entend aussi raisonner que la lutte initiale n'est pas la lutte finale. La lutte finale exigeait une table rase. La lutte initiale, dont vous avez si bien parlé, exige l'accueil d'une tradition. C'est ce que vous avez évoqué avec le Sénégal et cette chose qui perdure. Je vais essayer de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui a été la vôtre pendant l'écriture de ce livre. Je crois qu'elle l'est toujours 10 ans après et qu'on l'a entendu ce matin. Vous nous invitez à retrouver une pratique bien concrète, bien répétée, bien solide, bien musculaire, bien une vraie pratique de respiration. Mais c'est pour vous l'occasion de l'élévation. C'est au cœur de la matière travaillée, accueillie, modelée, cultivée que peut-être le spirituel trouvera un chemin. Et ce chemin, c'est aussi le chemin de l'être ensemble, car vous militez très bien dans la lutte initiale pour ce que vous appelez des communautés offshore. Peut-être qu'on ne croit plus en la politique au sens classique, mais on croit encore dans cette capacité à se regrouper autour de 2 mètres, en faisant ensemble une pratique. Et vous l'avez très bien dit, c'était votre belle conclusion. Pour être ensemble, eh bien, c'est pas théorique, c'est encore une fois aristotélicien plus que platonicien. Pour être ensemble, il faut œuvrer ensemble. Merci beaucoup, Philippe Nassif. Cette émission a été réalisée par François Audouin, avec à la technique Raphaël Rousseau, à la programmation musicale Valentine Chedebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tous les matins à 10h exactement, dans la caverne de France Inter, sous le soleil d'Aristote, mais aussi de Platon.